1989, Martin et Deguerre, 1889-1976, Pensée du divin et poésie, par Fabrice Midal et François Connac.
Pourquoi cet acharnement pour reprocher à Heidegger d'avoir existé à un moment précis? Sinon, ce qui me semble de plus en plus évident, mais peut-être pour moi seul, pour empêcher de lire précisément les livres fondamentaux qui ne sont pas tellement ceux d'avant la période de la Deuxième Guerre mondiale, encore que, on va voir les dates, c'est très important, que tout ce qu'il a pu publier depuis, et notamment son rapport à la poésie, à ce qu'il appelle Dieu ou les dieux, ou le sacré, le divin, etc.
De Martin Heidegger, on entend beaucoup parler, mais rien, souvent, n'est dit de l'aventure propre de son chemin de pensée. De grands titres sont lancés, engagement politique, fin de la philosophie, dépassement de la métaphysique, pensée de l'être. Mais rarement, ils sont pensés. Et ils finissent par fonctionner comme des automatismes bien connus, faisant obstacle à l'œuvre véritable. Sans doute ne peut-on pas éviter de tels obstacles, dès lors qu'il s'agit d'un philosophe. Nécessairement homme de demain et d'après-demain, comme dit Nietzsche, et dont la grandeur de la tâche, dit-il encore, consiste finalement à devenir la mauvaise conscience de son temps. C'est bien là que prennent racine les foudres et la volonté de censure que provoque encore massivement le seul nom de Heidegger, dont on préfère masquer qu'il est bel et bien le penseur de notre temps, pour ne pas trop avoir à se confronter à tous les textes mal connus en France, où le penseur, par un regard lancé au cœur de ce qui est, nous renvoie à l'effroyable, tel qu'il a déjà eu lieu. L'effroyable, le génocide nazi et la bombe atomique, dont la méditation de Heidegger nous apprend qu'ils ne sont peut-être pas de simples événements passés, loin derrière nous, et que leur sens, tout au contraire, quant à l'être de l'être humain, est encore loin d'être éclairci, alors même que nos bonnes consciences pensent en avoir fini avec ces crimes. C'est dans ce contexte où règne, dans sa toute-puissance, la subjectivité humaine, que Heidegger ouvre une méditation d'une ampleur inégalée sur le divin et la poésie. Adrien France Lanor, votre premier livre a été consacré au voisinage de la pensée et de la poésie, au dialogue entre Paul Celan et Martin Heidegger. Pourquoi avoir écrit un tel livre? Qu'est-ce qui se joue dans ce rapport?
La première chose qui m'intéressait, c'était la possibilité même du dialogue entre un philosophe, ou un penseur plus exactement, et un poète. À savoir que, bien sûr, la philosophie s'est intéressée à la poésie depuis Platon, dans la République, au livre 10, jusqu'à l'esthétique de Hegel. Mais en un sens, le rapport était toujours condescendant d'une certaine manière, dans la mesure où le rapport était pensé à partir d'une définition de l'être humain comme animal rationnel, avec une partie animale, sensible, une partie rationnelle, la raison, l'emportant sur la partie sensible et définissant proprement l'être humain. Et entre ces deux facultés, l'imagination, une sorte de pensée sensible à laquelle on pouvait plus ou moins se fier comme une sorte de rêverie douce et gentille. De cette définition de l'être humain, le dialogue entre la philosophie et la poésie ne pouvait ressortir que unilatéral d'une certaine manière, puisque la philosophie pense, du fait de la supériorité rationnelle, que la poésie peut être intéressante, divertissante, voire une forme de manifestation de l'esprit, mais néanmoins inférieure aux possibilités philosophiques. Avec Heidegger, les choses basculent entièrement, dans la mesure où l'être humain est pensé à partir du Dasein, ce qui signifie que la distinction entre la partie sensible et la partie rationnelle n'a plus de signification. Ainsi, ça libère un véritable champ pour mettre poésie et philosophie sur un pied d'égalité, dans la mesure où la pensée n'est plus considérée comme une simple activité de la raison, et la poésie n'est plus simplement regardée comme une activité imaginative sensible. C'est d'ailleurs ce qu'appréciait particulièrement René Char quand, après la première rencontre, sous le marronnier avec Jean Beaufray, il a dit à Jean Beaufray, le soir même, qu'il aimait particulièrement Heidegger, et il avait aimé cette rencontre parce que, pour la première fois, il rencontrait un philosophe qui ne lui expliquait pas qui il était, ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait à penser. Ainsi, grâce à Heidegger, un dialogue est possible dans la mesure où l'être humain est pensé à partir de la mise en résonance de la parole et s'ouvre dès lors une possibilité de véritable dialogue où poète et penseur se rencontrent dans le rapport à la parole, dans le rapport que la parole entretient avec l'être humain et avec son humanité.
René Char, 1964.
Les quelques impressions anciennes que je vais dire sont apparues souvent à l'intersection d'une lecture endurante, selon le mot de Jean Beaufray, des grands textes de Martin Heidegger et de l'exercice quotidien d'une vie d'homme que nous sommes nombreux à avoir tenté d'égaliser sans la dépeindre par le haut et par le bas. Elles sont un hommage de respect, de reconnaissance et d'affection à Martin Heidegger. La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme. Toute l'aventure humaine contredit ceci et pour nous stimuler et non nous accabler. Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs? La poésie qui est carte énigmatique et hâte d'accourir en les découvrant les annule.
C'est à partir de cette écoute de la parole que s'ouvre une autre entente de la poésie. Quelle est la singularité de l'écoute de la parole que met à jour Martin Heidegger?
Disons qu'il essaie d'aller vers une parole qui ne soit pas que communication.
Pierre Jasserme.
Il essaie de montrer que la parole n'est pas seulement un instrument de communication. Et donc, il se dirige vers une, comme il le dit en citant Novalis, vers une parole qui parle pour parler. Hein, il y a cette belle phrase de Novalis que Heidegger répète, parler pour parler est une délivrance. Il s'agit de, en quelque sorte, de faire accéder la parole à elle-même. Il s'agit de la libérer. Et en particulier, de la libérer du carcan, disons, de la grammaire, de la syntaxe, qui est au fond un carcan métaphysique. Donc, toute la difficulté, c'est de permettre à la parole de ne pas d'emblée objectiver les choses, mais de les laisser être.
Est-ce que c'est parce qu'il y a cet effort pour ne plus avoir un rapport métaphysique à la parole que s'ouvre cette entente neuve à la poésie chez Martin Heidegger?
Absolument. À ce moment-là, il y a un autre espace qui s'ouvre. C'est-à-dire, si je comprends que la parole peut laisser être au lieu, pour ainsi dire, de figer, alors ça donne un espace inhabituel de liberté où je peux tout percevoir autrement. Hein. Pensez à ce vers de Rimbaud dans Les Illuminations, le poème Enfance. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Bon, au bois, il y a un oiseau. Vous voyez, ici, ce qui se passe, c'est que il y a un espace énorme qui est libéré par cette phrase extrêmement simple, mais où Rimbaud, en prononçant le « il y a », atteint de suite un espace où il peut y avoir le bois, où il peut y avoir l'oiseau, où il peut y avoir nous qui entendons l'oiseau, etc., etc. C'est-à-dire que tout le problème, c'est d'arriver à entendre la parole parler.